chevaleresque en compagnie de Jean Danielou, Jules Salomon, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture des textes d'âge moyen cette semaine Georges Clès, à la réalisation de gras lumineux Mylia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son épique Élise Leu. À 10h50, ce sera l'heure, comme tous les jours, de retrouver François Nudelman pour le journal de la philosophie. L'invité de François aujourd'hui sera Guy Hermet, qui viendra vous parler de son dernier livre, publié au CERF, « Démocratie et autoritarisme ». Après René Girard, Michael Haneke, Alain Badiou et les débats d'enjeux contemporains au grand amphithéâtre de la Sorbonne, Les Nouveaux Chemins, cette semaine, changent de cap et d'épée et vous proposent un retour vers le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'a rien de moyen et a plusieurs âges. C'est une sorte de fleuve de siècles gigantesque et indistinct dans lequel s'est plongée l'Antiquité pour en ressortir renaissante. Les églises y sont romanes et Dieu impitoyable. La société a trois ordres et les villes sont sombres et boueuses. Mais c'est aussi le début de l'université, la redécouverte d'Aristote et surtout la naissance du romanesque en littérature et la fondation de l'école scolastique. Pour explorer ces lumières du Moyen-Âge, demain je recevrai Didier Ottaviani à propos de la Divine Comédie de Dante. Mercredi, Laurent Lavaux nous initiera à la pensée de Maître Eckhart. Et jeudi, c'est Ruedi Imbar qui viendra concilier théologie chrétienne et pensée d'Aristote en compagnie de Thomas d'Aquin. Mais aujourd'hui, écoutez les tribulations fantastiques et mystiques de Perceval le Gallois dans un texte aussi drôle qu'inépuisable pour la pensée, Perceval ou le Comte du Graal. Qui sème peu récolte peu. Mais qui veut s'assurer une bonne récolte doit répandre les grains sur une terre qui lui procure un rendement 100 fois supérieur. Car dans une terre sans valeur, la bonne graine se dessèche et meurt. Chrétien sème et jette la graine d'un roman qu'il commence, et il sème en une si bonne terre qu'il ne peut manquer d'en retirer grand profit. Chrétien n'aura pas perdu sa peine, lui qui met toute son application et consacre ses efforts à rimer sur ordre du comte. Le meilleur comte qui soit compté dans une cour royale, c'est le comte du Graal, dont le comte Philippe lui a confié le livre. Vous allez entendre comme il s'en acquitte.
Il y eut d'abord peut-être le chaudron à porridge du grand Dagda, les yeux verts d'Iris, le cratère d'Hermès Trismégite. Un jour peut-être, un certain Arturus, officier dalmate dans une légion romaine, s'égara au cours d'une chasse en traversant au sud de l'Écosse une forêt où vivait un prophète sauvage. Il y eut peut-être un chef picte nommé Drustan et un héros gallois nommé Gualchmei ou Langue d'Or. Peut-être. Puis vinrent Maître Weiss de Jersey, Marie de France, Thomas et Béroul, Chrétien de Troyes, Robert de Boron. Avec eux, les enchantements de Bretagne conquirent la France, puis l'Europe. N'a-t-on pas connu un roi Arthur hébreu, un Tristan slovaque et un Tristan andorran, un Erec scandinave? Ils vécurent 4 siècles. Mais, après la mort mystérieuse des 2 derniers héros arthuriens, Sir Thomas Malory et Don Quichotte, le silence recouvrit le royaume aventureux. Qui les connaît encore aujourd'hui? Sinon les enfants dont se nourrissent les comtes et les médiévistes qui sont, nul ne l'ignore, de grands enfants. On voit parfois les héros bretons travestis en ténor, basse ou contralte, hurler, vêtus à la tyrolienne, sur des scènes musicales. Hélas, Parzival, Parzival. Le Graal, tombé de leurs mains affaiblies, a-t-il donc été recouvert définitivement par la poussière? Ne saura-t-on plus jamais à quoi il servait, ce qu'était la lance, l'épée, la lumière? Voici de nombreuses années déjà, nous sommes partis à l'assaut du mystère.
Bonjour Michel Zinc.
Bonjour.
Bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance.
Merci.
Vous êtes professeur au Collège de France, où vous occupez la chaire de littérature de la France médiévale, également secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions des belles-lettres et grand spécialiste de la littérature du Moyen-Âge, et en particulier de Chrétien de Troyes, dont nous parlons aujourd'hui. Pour commencer cette semaine consacrée au Moyen-Âge, « Qui sème peu récolte peu », c'est les premiers mots du texte de Perceval ou le Conte du Graal. « Qui sème peu récolte peu », et surtout, il faut semer dans une bonne terre qui fera fructifier le texte par la suite. La meilleure preuve de cela, c'est le texte de Roubaud qu'on a donné à entendre ensuite, Jacques Roubaud, interprété par Georges Clès, qui montre cette postérité des contes et du Graal sans cesse retravaillée. C'est peut-être là le secret d'un bon roman, surtout dès le début de l'invention du roman, c'est de semer dans une terre qui sera tellement fructueuse qu'on n'aura jamais fini de réécrire le texte original.
Oui, le texte, le roman du Graal ne sera jamais terminé, d'une part parce que le roman de Chrétien de Troyes est si beau qu'il a suscité, il a fait travailler les imaginations dès qu'il a été écrit jusqu'à aujourd'hui, et aussi parce que ce roman est inachevé, ce qui le rend donc encore plus beau. Et enfin, Chrétien de Troyes a une sorte de fierté modeste. À la fois, le comte de Flandre, le comte d'Alsace, lui a confié un livre, mais nous ne saurons jamais quel est ce livre. Il dit qu'il y a un livre, mais en même temps, il sème et il fait semence d'un roman qu'il en commence. Qui sème ? Qui sème peu, récolte peu. Qui sème bien, récoltera beaucoup. C'est la parabole du semeur de l'Évangile, c'est une formule de saint Paul. Ce sont des formules qui se rapportent au vrai semeur qui est Dieu. Mais voilà que quelqu'un qui écrit une histoire, qui ne se cache pas d'inventer une histoire, il le dit en ses propres termes dans son premier roman, écrit quelques années auparavant, Erec et Enide, considère que cette histoire peut fructifier et qu'elle peut non seulement, comme je le disais, faire travailler l'imagination, mais faire progresser, j'oserais dire, moralement, puisque tout son prologue adressé à ce comte Philippe de Flandre est pour dire que ce comte pratique la charité et que donc un roman sur la charité sera bien placé en lui.
Et surtout, ce qui est frappant, c'est que vous l'avez dit, il s'agit d'un roman qui a un auteur, puisque le nom même de Chrétien apparaît dès l'incipit du texte. Or,
oui,
à l'époque, c'est nouveau. Chrétien,
oui, alors, cette littérature, c'est une grande question. C'est d'ailleurs celle de mon cours au Collège de France cette année. L'anonymat, le non-anonymat de la littérature du Moyen-Âge. Chrétien se nomme Chrétien de Troyes dans son premier roman, Erec et Enide. Dans les suivants, il se nomme Chrétien. Il y a un roman nommé Guillaume d'Angleterre, dont l'auteur dit s'appeler Chrétien, mais on n'est pas sûr que ce soit Chrétien de Troyes. C'est probablement pas lui. Il est difficile de le savoir. Mais quand je dis qu'il est à la fois orgueilleux et modeste, on le voit au début de ce premier roman, Erec et Enide, il dit, voilà, Chrétien a pris un conte d'aventure et il l'a très bien organisé. Et cette histoire, elle sera racontée tant que durera chrétienté. Pour un homme du Moyen-Âge, aussi longtemps que durera la chrétienté, ça veut dire aussi longtemps que durera le monde. Mais comme lui s'appelle chrétien, aussi longtemps que durera la chrétienté, ça veut dire aussi longtemps que la mémoire de chrétien durera, et c'est une sorte de la palissade tout à fait modeste. Tant qu'on me lira, on me lira. Et de même, dans le conte du Graal, il sème, il fait semence d'un roman qu'il commence, mais en même temps, cette matière, il l'a reçue du conte, elle est préexistante, elle est mystérieuse, elle puise ses racines, on ne sait où, elle va, on ne sait où, et c'est ce qui fait qu'elle nous fascine depuis 8 siècles.
Et ce mystère de la structure même du texte, puisque vous l'avez dit, il est inachevé, et pas seulement d'ailleurs, il y a aussi un moment assez surprenant au sein du texte où le narrateur, puisqu'il y en a un véritablement, quitte le personnage de Perceval, que nous avons suivi jusqu'à, depuis le début du texte, pour suivre celui de Gauvain. Il informe le lecteur, hein, laissons Perceval ici, puis suivons les aventures de Gauvain. Si bien que cette structure-là contribue au mystère déjà de l'inachèvement du texte, mais aussi au mystère même compris au sein du texte, puisque Perceval ou le comte du Graal, toute la question de savoir ce qu'est ce Graal.
Mais oui, alors...
C'est presque un roman policier à cet égard.
C'est un roman policier. Tous les romans de Chrétien de Troyes sont construits sur le même schéma, c'est-à-dire qu'un jeune héros qui, au fil de ses aventures, se découvre lui-même et découvre son destin. Ce jeune héros affronte une aventure, en sort vainqueur, comme par hasard, sans comprendre ce qu'il a fait. Et donc, il gagne tout. Mais comme il n'a pas compris, il repère tout. Et il doit refaire le même chemin, difficilement, douloureusement, avec cette souffrance qui est le signe de la conscience, hein, et finalement regagner ce qu'il avait déjà gagné une première fois dans l'inconscience. C'est ce qui se passe pour Perceval, ce jeune naïf qui, sans savoir ce qui lui arrive, un beau jour arrive au château du Graal, le cortège du Graal défile devant lui, il lui suffit de poser la question, et là c'est la question d'ailleurs qui lui brûle les lèvres, à qui fait-on le service du Graal? À quoi sert ce Graal? Qui en sert-on? Il ne pose pas la question, il perd tout, et il doit tout reconquérir. Le roman est fait de cette façon, mais comme vous le dites très bien, il n'est pas fait seulement de cette façon, puisque à un moment donné, il bifurque et on suit les aventures de Gauvain. Pourquoi ? Comment pouvait-il se terminer ? Tel que nous le connaissons, il est déjà deux fois plus long, presque, que les autres romans de Chrétien de Troyes. Plus, il est difficile à terminer, puisqu'après la rencontre de Perceval avec son oncle ermite, nous connaissons le fin mot de l'histoire. Nous savons quelle est la relation familiale entre Perceval et la lignée du Graal. Il sait ce qu'il a à faire pour retrouver le Graal et pour guérir le roi pêcheur et pour rendre la terre féconde. Il sait confesser, il est nouveau sur le droit chemin, on sait qu'il va retrouver ce château. À ce moment-là, on le perd. S'il le retrouve vraiment, eh bien, ce qui se passera, nous l'avons déjà entendu que dans une sorte de prophétie. D'une certaine façon, ce n'est pas possible. Le roman est fait pour rester dans l'inachèvement où on sait comment il va finir, mais où il ne se finit pas. Mais évidemment, ce n'est pas satisfaisant et on a écrit des dizaines de milliers de vers pour le continuer sans réussir jamais bien à le finir. Et puis ensuite, on l'a remanié, on a écrit des cycles en prose, des romans interminables pendant tout le Moyen-Âge pour terminer l'interminable et le terminer de façon que ce ne soit pas décevant. Parce que bon, finalement, il pose la question, tout le monde est guéri, tout le monde est content, il succède à son oncle dans le royaume du Graal, et puis quoi ? Ben voilà, il devient roi du Graal. Cette fin de conte de fées laisse une fin qui laisse sur sa fin, si je puis dire. Le Graal, c'est...
La colère s'empara du chevalier qui leva sa lance, l'empoignant à deux mains, et s'en donna au jeune homme un grand coup entre les deux épaules d'un revers de la hampe, si fort qu'il le fit tomber en avant sur l'encolure de son cheval. Alors la fureur s'empara du jeune homme qui se sentit blessé par le coup reçu. Il le visa à l'œil du mieux qu'il put et lança son javelot. Avant qu'il ait entendu ou vu quoi que ce soit, l'autre est atteint à l'œil et au cerveau, si bien que derrière la nuque, le sang et la cervelle se répandent. La douleur lui arrête le cœur, il tombe à la renverse, étendu, raide mort. Le jeune homme descend de cheval, met la lance de côté, lui retire l'écu suspendu à son cou, mais il ne peut venir à bout du haume qu'il a sur la tête, car il ne sait comment s'y prendre. De même, il désire lui enlever son épée, mais il ne sait pas la faire sortir de son fourreau, il prend le fourreau et tire comme pour l'arracher. Alors Yonet commence à rire en voyant le jeune homme s'y embarrasser. « Qu'est-ce que je vois ? » dit-il, « mon ami, que faites-vous ? « Je ne sais pas trop quoi, je pensais que votre roi m'avait donné ses armes, mais il faudra que je mette le mort en morceaux, comme pour faire des brochettes, avant d'emmener aucune de ses armes, car elles lui tiennent si bien au corps que le dehors et le dedans ne font qu'un, il me semble. Tout est d'un seul tenant. Ne vous souciez de rien, car je vais bien vous les séparer, si vous voulez. Mais alors faites vite, donnez-les-moi sans plus tarder. » Aussitôt, Yonet déshabille le mort et le déchausse jusqu'aux orteils. Il ne lui reste plus ni auber, ni chausse, ni aume sur la tête, ni aucune autre armure. Mais le jeune homme ne voulait pas quitter ses propres vêtements et il ne voulait pas, malgré tout ce que pouvait lui dire Yonet, revêtir la confortable tunique en droit de soie. Bien rembourré, qu'enfilait sous son haubert le chevalier de son vivant, et Yonet ne pouvait pas lui retirer les brodequins qu'il avait chaussés. « Mais diable, vous plaisantez, il faudrait que je change mes bons vêtements, ceux que ma mère m'a confectionnés l'autre jour pour ceux du chevalier. Et ma grosse chemise de chanvre, vous voudriez que j'y renonce pour la sienne qui est très légère. Et ma tunique, qui ne laisse pas passer l'eau, pour celle-ci qui n'en arrêterait pas une goutte. Il s'en mordra les doigts celui qui échangera le moindre de ses bons vêtements contre d'autres plus mauvais. » Il n'est pas facile de faire la leçon à un fou. Vous avez évoqué le Graal, Michel Zinc, et c'est en effet le centre du roman, mais c'est déjà le moment de la conversion, quelque part, du personnage de Perceval. Perceval qui, disons quand même, il faut en dire deux mots, et ce jeune homme qui est élevé à l'écart. Oui, de la ville et des châteaux par sa mère dans une forêt. Jeune homme naïf, il rappelle un peu la nièce de l'école des femmes, hein, de Molière, qui ne connaît rien à la vie et qui un jour va rencontrer des chevaliers, va vouloir devenir chevalier, mais il a tout à apprendre. Le texte que je viens de lire le donne bien à entendre. Ce naïf un peu pâteau, un peu maladroit, qui s'y prend très mal, qui va finalement être confronté au mystère le plus grand qui soit.
Oui, le texte que nous venons de lire est essentiel et montre quelle est à la fois la situation de Perceval, qui est si naïf qu'il ne sait pas encore son nom à ce moment-là. Il le découvre beaucoup plus tard dans le roman par une sorte d'inspiration. Mais appelons-le Perceval tout de même pour simplifier. Donc, et la façon dont il s'y prend très mal. D'une part, nous avons là un combat, alors le combat avec la cervelle qui coule, enfin le classique combat qu'on trouve dans les chansons de gestes et dans les romans. Mais ce n'est pas du tout un combat classique, car ce chevalier vermeil qui a offensé le roi Arthur et que Perceval défie, le chevalier vermeil voit bien qu'il a affaire à un niais de valet du pays de Galles et il dédaigne de se battre contre lui. Il le frappe du revers de sa lance. Perceval est profondément humilié, mais l'autre ne lui a pas fait vraiment mal. Il ne veut pas le tuer. Il ne s'attend pas à ce que Perceval l'attaque. Perceval, qui ne sait pas se battre, mais qui sait chasser, prend un de ses javelots, arme de chasse et non pas de guerre, et il l'envoie comme il est habile, le javelot entre par la visière du haume et entre dans l'œil, tue le chevalier. Il le tue par hasard, il ne le tue pas à la loyale. Ce n'est pas un vrai combat de chevalier. Donc Perceval est vainqueur, mais il est mal vainqueur et il ne le sait pas. Il veut... Pourquoi est-il vainqueur? Pourquoi a-t-il affronté ce chevalier? Non pas pour aider le roi Arthur, il ne s'intéresse à rien ni à personne et les malheurs du roi Arthur lui sont totalement indifférents. Mais il a envie de l'armure du chevalier vermeil. Et le sénéchal que, toujours moqueur, lui a dit « Allez-y, mon brave, si vous avez envie de l'armure, allez la prendre. » Et le roi Arthur a dit à que, voyons, vous voyez bien que ce jeune homme est un naïf, vous l'envoyez à la mort, etc.
Que c'est le nom du sénéchal.
Que c'est le nom du sénéchal, le roi Arthur. De tous ceux qui ont vu Merlin l'Enchanteur ou de Walt Disney savent ça. Et donc, il tue ce chevalier par hasard. Ensuite, comme ce n'est pas un vrai chevalier, il ne sait pas enlever l'armure, il ne sait pas comment ce qu'on fait d'une armure. Comme il n'est pas un vrai chevalier, il ne sait pas non plus qu'il ne suffit pas d'avoir une armure et que l'intérieur doit correspondre. Et l'habileté de Chrétien de Troyes, c'est de montrer l'intérieur de façon somme matérielle par l'extérieur. Même sous l'armure, les vêtements de dessous doivent correspondre à ce qu'est un vrai chevalier. Mais lui, il est fidèle aux vêtements grossiers que lui a donné sa maman, puisqu'il est fidèle au souvenir de sa maman. Il est quand même la cause de la mort de sa maman. Enfin, et il veut garder ses habits. Donc il veut l'enveloppe du chevalier, mais il n'est pas prêt à l'intérieur à devenir un chevalier. Et quand il dit il faudrait le couper en morceaux, ce mort, c'est comme un homard, il ne sait pas quoi en faire. Et cela correspond à une sorte de fantasme médiéval extrêmement profond. C'est l'idée que le chevalier et son armure ne font qu'un. Lorsqu'il a rencontré les chevaliers dans la forêt, ce jeune homme, c'est la première fois qu'il voit des chevaliers. D'abord, il les prend pour des diables, puis pour des anges. Et il demande au chevalier, est-ce que vous êtes né comme cela? Il croit que l'armure fait partie du corps. Et dans un roman allemand un peu plus tardif, puis dans un roman français de la fin du Moyen-Âge, on trouve un chevalier qui est un monstre marin qui sort de l'eau avec son armure, mais quand on lui donne un coup d'épée sur son armure, il saigne l'armure, en réalité, est sa chair. Donc tous ces fantasmes se mêlent dans l'esprit du jeune homme, et une fois que l'écuyer Yvonnet l'a aidé à revêtir l'armure, il croit qu'il n'a plus besoin du roi Arthur, qu'il est chevalier, il s'en va comme cela, mais il a encore tout à apprendre, à devenir un vrai chevalier, à apprendre ce qu'est un chevalier et à apprendre la générosité qui caractérise le chevalier et qu'il n'a pas encore.
Et ce sera d'ailleurs grâce à l'apparition du Graal que cette conversion va se faire, puisque le texte que j'ai lu donnait aussi cette dimension-là à entendre, cet amour de la part de Perceval, ce désir de posséder quelque chose de matériel, et qui est à remettre sur le compte sans doute de sa jeunesse, de sa naïveté, qui n'est pas forcément une innocence, mais vraiment une naïveté, puisqu'il se trompe sans arrêt, ce qui d'ailleurs donne lieu à des scènes très comiques, disons-le, ce texte est très drôle. Oui. Et c'est justement lorsque le Graal va lui apparaître, on va écouter le texte dans un instant, qu'il va comprendre, qu'il va, pour la première fois, va naître en lui le désir non pas de posséder quelque chose, mais de connaître.
Exactement. L'histoire est connue, mais il faut tout de même rappeler que Perceval a été élevé au fond de la forêt par sa mère veuve. Alors, on le sait d'autre part, parce que son père et ses frères chevaliers sont morts au combat et que sa mère veut la garder. Donc, elle veut le protéger qu'il ne sache pas ce que sont les chevaliers. Et il en rencontre dans la forêt, il est ébloui, il finit par apprendre d'eux que c'est le roi Arthur qui fait les chevaliers, il retourne chez sa mère, il dit qu'il veut devenir chevalier. À ce moment-là, elle est désespérée, comment le retenir? Elle essaye de faire son instruction, mais c'est trop tard, il est trop naïf, il se fait une idée trop fausse du monde, des chevaliers qu'il a vus, de ce qu'il veut. Il est trop enfermé en lui-même, parce qu'il a été élevé tout seul. Et il lui faudra un long chemin, un chemin douloureux. Je parlais tout à l'heure de ces initiations dans les romans de Chrétien III. Il lui faudra un échec au château du Graal pour apprendre, comme on disait, je ne vais pas parler comme le père Goupillon, mais enfin, pour apprendre qu'on n'a que ce que l'on donne. Lui, il veut recevoir et il n'a jamais rien. Et quand il apprend que c'est en donnant qu'on reçoit, et c'est pour cela que le prologue du roman sur la charité ne vient pas du tout par hasard. À ce moment-là, eh bien, il peut repartir sur le chemin du Graal.
Tandis que Perceval et le roi pêcheur parlaient de choses et d'autres, un jeune homme sortit d'une chambre, tenant une lance blanche empoignée par le milieu. Il passa entre le feu et ceux qui étaient assis sur le lit, et toute l'assistance voyait la lance blanche et le métal blanc, et une goutte de sang qui, venue de la pointe du fer de lance, coulait jusqu'à la main du jeune homme, toute vermeille. Puis venait un Graal, tenu à deux mains par une demoiselle qui s'avançait avec les jeunes gens, belle, élégante et parée avec goût. Quand elle fut entrée dans la salle en tenant le Graal, une si grande clarté se répandit que les chandelles perdirent leur clarté, comme font les étoiles quand le soleil se lève ou la lune. Après cette demoiselle en arriva une autre, tenant un tailloir en argent. Le Graal, porté en tête du cortège, était d'or fin et pur. On y voyait des pierres précieuses de plusieurs sortes, les plus riches et les plus chères que l'on puisse trouver en mer ou dans la terre, car les pierres du Graal surpassaient toutes les autres, sans aucun doute. Comme pour la lance, on fit défiler ces objets devant le chevalier avant d'entrer dans une autre chambre, et le jeune homme les vit passer sans oser demander à qui l'on destinait le service du Graal, car toujours il gardait en mémoire les paroles de son noble et sage maître. Je crains que ce ne soit dommage, car j'ai souvent entendu dire qu'on peut aussi bien trop se taire que trop parler. Mais, quelle qu'en soit la conséquence, bonne ou mauvaise, il ne chercha pas à savoir, ni ne posa aucune question.
Chevalier qui partait pour la guerre, qu'allez-vous faire si loin d'ici? Voyez-vous pas que la nuit est profonde et que le monde n'est que souci? Vous qui croyez qu'un amour délaissé de la pensée hélas, chercheur de renommée, votre fumée s'envole aussi.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h26, nous partons au Moyen-Âge cette semaine et aujourd'hui dans le Moyen-Âge de Chrétien de Troyes, plus particulièrement de Perceval ou le Comte du Graal en compagnie de Michel Zinc, auteur notamment d'une introduction à la littérature française du Moyen-Âge, mais également, c'est à lui que l'on doit l'édition des œuvres de Chrétien de Troyes en pochetèque, livre de poche.
Était si doux, beau chevalier qui partait pour la guerre, qu'allez-vous faire si loin d'ici? Voyez-vous pas que la nuit est profonde et que le monde n'est que souci?
Tout le tragique et l'ironie de ce texte du Graal, Michel Zinc, vient du fait que, pour une fois, c'est parce qu'il n'ose pas poser une question que Perceval voit devant lui, lui échapper la clé du mystère du Graal. Lui qui, sans arrêt, posait des questions à tous les chevaliers, toujours à mauvais escient, pour une fois retient la leçon qu'on lui a faite, car c'est un chevalier qui lui a enseigné de ne pas trop parler. Il retient la leçon, il la met en œuvre, il ne pose pas la question de la signification du Graal. Et c'est la ironie du sort, c'est à ce moment-là qu'on va lui reprocher de ne pas avoir demandé à quoi servait le Graal, car c'est en effet c'est la seule façon de résoudre ce mystère du Graal. C'est oui. Tragique, de, juste parce qu'il n'a pas osé poser la question, tout lui échappe.
Oui, Perceval est piégé d'une certaine façon. C'est un enfant de la nature. S'il restait dans sa naïveté première, il ne quitterait jamais sa mère et sa forêt, ne trouverait jamais le château du Graal. Mais il faut devenir un vrai chevalier pour trouver le château du Graal, mais à ce moment-là, il faut recevoir cette éducation que lui donne le sage Gornement de Gore, auquel vous faites allusion, et qui lui a appris à ne pas trop poser de questions. À ce moment-là, quand il arrive, il applique à la lettre ce que lui a dit Gornement de Gore, et il ne pose pas de questions. Mais en même temps, l'explication qui est donnée plus tard de son silence est une explication différente. Après avoir échoué au château du Graal, dans la forêt, il rencontre une jeune fille qui pleure avec son ami mort dans son giron, etc. C'est sa cousine, c'est par elle qu'il apprend qui il est, ou en sa présence qu'il trouve son nom. Et sa cousine lui dit qu'il est resté silencieux devant le cortège du Graal parce qu'il porte le péché de la mort de sa mère. Parce que quand il a quitté sa mère, elle est restée près du pont-levis à le voir partir, et quand il s'est retourné, elle était tombée. Il s'est dit, bon, elle s'est évanouie, il n'est pas revenu en arrière, il a continué. Et pendant toutes ses aventures, depuis, il n'a qu'une idée, c'est de retourner chez sa mère. Même lorsqu'il sauve la charmante Blanchefleur qui lui propose de l'épouser, il dit, oui, très bien, mais d'abord, il faut que je retourne chez ma mère, puis je reviendrai avec elle, ce sera agréable, on sera avec belle-maman. Et il repart. Donc, il veut retrouver sa mère, mais sa mère, il ne la retrouvera pas. Parce qu'elle est morte. D'ailleurs, lorsqu'il trouve le château du Graal, il longe une rivière infranchissable et curieusement, il se dit « Si j'arrivais à franchir cette rivière, je retrouverais ma mère. » Or, dans le monde celtique, la rivière sépare de l'autre monde. Il sait vaguement qu'elle est dans le pays des morts, mais il ne se l'avoue pas. Il porte en lui cette culpabilité. Sa mère est morte parce qu'il était indifférent à sa mère. Il posait bien des questions, mais il posait des questions pour lui. Il posait des questions pour ce qui l'intéressait lui et non pas pour ce qui intéressait l'autre. Et il a mal compris la leçon de Gornement de Gore, parce que de même qu'il ne voyait que l'extérieur du chevalier, l'armure brillante, et pas les dispositions d'esprit qui doivent aller avec ce noble état de chevalier. De même, il a appris l'extérieur de la civilité puérile et honnête. Il ne faut pas poser des questions indiscrètes et il n'a pas compris pourquoi il ne faut pas poser de questions. Il ne faut pas poser de questions quand elles sont indiscrètes, mais il faut s'intéresser aux autres et à bon escient savoir quand il faut les aider à parler. Et là, il aurait dû voir que le roi pêcheur, le riche pêcheur, chez Chrétien de Troyes, le regardait, attendait cette question.
Le roi pêcheur, c'est celui qui l'accueille lorsque la scène du Graal se déroule chez le roi pêcheur, dans un château qui lui apparaît un peu comme par magie.
Comme par magie. Alors, il veut franchir la rivière, il voit une barque sur la rivière avec deux hommes magnifiquement vêtus, l'un qui pêche, et qui lui dit « Allez chez moi, on vous logera ». Je me suis repris parce que chez Chrétienne III, enfin dans une des traditions du Graal, il y a ce riche pêcheur qui le reçoit, et dans une pièce dans laquelle il n'entre pas, le vieux roi qui est nourri de l'hostie contenue dans le Graal et qui est lui le vrai roi du Graal. Dans d'autres versions, il y a un seul personnage qui est le roi pêcheur qui réunit les deux. Enfin, ça, c'est un détail. Par exemple, chez Wagner, qui suit naturellement la version allemande de Wolfram von Eschenbach. C'est comme ça.
Mais alors, vous l'avez dit, la fonction du Graal, finalement, on l'apprend, c'est de transporter cette hostie qui vient nourrir un roi qui se situe dans la pièce adjacente à celle où se trouvait Perceval. Ce roi est en réalité son oncle, c'est ce que lui apprend sa cousine. Et là, tout d'un coup, le roman change puisqu'on a cette dimension familiale qui vient, de par la culpabilité de Perceval, qui serait responsable, malgré lui quand même, de la mort de sa mère, qui ne s'est pas remis du chagrin de le voir partir pour devenir chevalier, alors que son mari et ses deux autres fils étaient morts étant chevaliers. Cette culpabilité-là va se retourner contre lui. Il va se rendre compte que finalement, ce sont ses membres de la famille qui l'entourent. Comme si lui-même ne sortait pas vraiment de son âge d'enfant ou d'adolescent.
Oui, c'est une histoire familiale. En fait, la cousine lui révèle une partie. Les liens familiaux, c'est l'oncle ermite, un autre oncle qu'il rencontre plus tard, qui le lui révèle. Alors, il y a là donc une sorte de mystère familial insoluble, à partir du seul roman de Chrétien, parce que le roman de Chrétien, et c'est tout l'art de Chrétien, c'est un roman extrêmement allusif, qui n'explique rien, qui n'entre pas dans les détails. C'est pourquoi aussi on a écrit ensuite toutes sortes de suites et on a inventé toutes sortes d'explications. Voilà. Mais en même temps, c'est quelque chose de très caractéristique de tous les romans arthuriens, que cette sorte de... Ça se passe un peu comme dans un jeu de piste. Dans ces romans, le chevalier part à l'aventure au fond de la forêt profonde et il erre dans un monde où il ne connaît rien, tout est nouveau pour lui, mais tout le monde a l'air de le connaître. Il rencontre des tas de gens qui sont au courant, qui le mettent sur la voie ou qui créent des obstacles, mais qui savent très bien comment il se situe dans ce monde mystérieux. Et évidemment, le sommet de cette situation, qui lui donne des indices, etc. C'est ce conte du Graal où non seulement il faut poser la question, mais la question ne peut être posée que par l'élu et quelqu'un qui appartient à ce mystérieux lignage du Graal, à cette famille vraiment bizarre, dont Chrétien III ne dit pas un mot, mais dont quelques années plus tard, Robert de Boron dira que c'est le lignage de Joseph d'Arimathie et que le Graal est le vaisseau de la dernière scène dans lequel Joseph d'Arimathie a recueilli le sang du Christ.
Mais alors, de quoi le Graal est-il véritablement le nom ou le symptôme? Puisque, on l'a dit, au sein du roman Perceval ou le conte du Graal, le mystère du Graal est résolu. On sait pourquoi. On sait quel est ce Graal, on sait où il va et on sait pourquoi. Perceval lui-même n'a pas osé poser la question du Graal. Et d'ailleurs, c'est le conte du Graal et non pas la quête du Graal. La postérité, au contraire, a fait du Graal une quête, comme un mystère qui ne serait jamais perçu, ni sondé, ni mis à jour, et qu'il faudrait sans arrêt essayer d'aller déceler.
Vous avez tout à fait raison. Mais le Chrétien III y invite tout de même, puisqu'il ne termine pas son roman. Donc il faut ensuite retrouver ce Graal. Dans son roman même, Perceval erre pendant 5 ans comme fou, ayant oublié le temps, ayant tout oublié, ayant même oublié Dieu, à la recherche du château du Graal qu'il ne retrouve pas. Et il y a, non seulement Chrétien III n'explique rien, mais il y a une ambiguïté de départ, parce que dès Chrétien III, le Graal est un objet religieux, puisqu'il contient une hostie. C'était sinon un calice, on ne célèbre pas l'Eucharistie, il n'y a pas de consécration, mais c'est un ciboire, c'est un récipient qui contient une hostie consacrée. Mais en même temps, le roman pour le reste n'est pas particulièrement un roman religieux. Mais pourtant, Perceval revient sur le bon chemin un vendredi saint en se confessant à l'oncle ermite et en communiant le dimanche de Pâques. Et Et puis ensuite, puis on ne sait rien, jusqu'à Robert de Boron, qui dit c'est le vase de Joseph d'Arimathie. Et les médiévistes enfin, se sont opposés farouchement, les uns disant c'est un objet qui vient de la mythologie celtique, et les autres disant c'est dès le départ un objet chrétien. Les deux thèses ne sont absolument pas incompatibles. Il est très clair que dans ce monde arthurien nourri de légendes celtiques que Chrétien de Troyes connaissait Dieu sait comment, ce Graal est un vase de fécondité, comme la corne d'abondance de la mythologie classique, comme le sampo de la mythologie finlandaise, etc. C'est vase d'abondance, puisque si on ne pense pas, la malédiction de la terre du Graal, c'est de devenir stérile, et puisque le riche pêcheur ou le roi pêcheur est infirme et ne marche pas parce qu'il a reçu un coup de lance qui lui a traversé les deux cuisses, qui est une image naturellement de la castration. Mais en même temps, dès le début et avec ténacité, ce Graal est une sorte de relique chrétienne et est lié à l'histoire du salut. Et encore une fois, le roman de Chrétien est un roman de la charité, non pas de la charité de faire le monde, mais enfin de la charité au sens chrétien, un roman du plus grand amour.
Et pourtant, le Graal en tant qu'objet est fascinant parce qu'il est c'est un très bel objet. Le Graal, c'est pas comme dans la version d'Indiana Jones où justement le vrai Graal est celui le plus pauvre et le moins clinquant possible. Oui. Au contraire, on l'a entendu, hein, le Graal est tellement brillant qu'à côté de lui, la lumière des étoiles paraît bien terne, les serties de diamants. C'est un objet magnifique qui renvoie à l'invisible auquel il donne accès. Il y a ici la dialectique entre d'un côté un monde matériel et visible et de l'autre l'immatériel à laquelle il donne accès.
Et pourquoi un Graal ? Le mot Graal, c'est un nom commun, un Graal. C'est un mot. D'abord, l'étymologie est assez obscure, enfin, je n'entre pas dans le détail. C'est un mot qui existe plus en Languedoc qu'en langue d'Oïl. En langue d'Oïl, la langue de le français, la langue de Chrétien de Troyes, il est assez rare. Et c'est un mot qui désigne généralement un plat large et assez profond, qui est généralement un plat à poisson, pour pouvoir contenir à la fois le poisson et le garum, la sauce qui va avec. Or, dans le cortège du Graal, on se l'imagine comme une sorte de ciboire ou de calice, il a toujours été représenté de cette façon. Puis alors chez Wolfram von Eschenbach, c'est une pierre, le Graal. Alors c'est encore différent, mais ça c'est autre chose. Mais on ne sait pas très bien pourquoi, pourquoi Chrétien de Troyes a choisi ce mot de Graal pour désigner cet objet qui contient une hostie. Que veut dire on est un Graal tout découvert? Que veut dire ce Graal tout découvert, etc. Il y a toutes sortes. Autour de ce cortège du Graal, le tailloir, il y a une épée avant, la lance qui saigne. Il y a eu, il y a mille questions, Dieu merci, insolubles.
Il y a tout un registre symbolique, en effet, parce qu'avant que le Graal ne défile devant ses yeux, un personnage vient qui tient une lance au bout de laquelle coule du sang. Des gouttes de sang qui coulent le long de son bras, sang d'ailleurs qu'il reverra par la suite Perceval lorsque, sur la neige, alors qu'après le passage d'une oie blessée, il contemplera les gouttes de sang sur la neige, ce qui est d'ailleurs une bonne façon pour Chrétien de Troyes de nous montrer que Perceval n'a pas su regarder la lance chez le roi pêcheur, puisque ce à quoi le sang lui fait penser, c'est aux joues de sa bien-aimée Blanchefleur, qui lui rappelle le teint vivant et vivifié de sa bien-aimée.
Aux lèvres, c'est la première Blanche-Neige. Elle a la peau blanche et les lèvres rouges. C'est pourquoi les gouttes de sang sur la neige lui font penser à Blanchefleur. Mais oui. Alors, vous avez tout à fait raison, il ne pense pas à la lance qui saigne, il pense à Blanchefleur. Il n'a peut-être pas tort de penser à Blanchefleur, parce que le Graal est un objet religieux, il y a une quête de la charité et une quête de l'amour dans le conte du Graal. Mais cet amour peut revêtir bien des formes, et Chrétien de Troyes ne dit pas du tout que amour de Dieu et cet amour du prochain auquel Chrétien de Troyes est invité par le Graal est incompatible avec l'amour humain, la passion amoureuse qu'il peut avoir pour Blanchefleur, n'est-ce pas ? Vous avez dit au début que le dieu médiéval est un dieu impitoyable, n'est pas toujours impitoyable, c'est un peu une caricature du dieu médiéval. Et d'ailleurs, lorsque vous parlerez de Maître Eckhart et de Thomas d'Aquin, oui, vous le verrez. Et on voit déjà, enfin, on voit déjà chez Chrétien de Troyes, c'est qu'on est. Et la lance qui saigne naturellement. Ensuite, on a considéré que c'était la lance de Longin, la lance qui perce le flanc du Christ, quand toute la légende a été rapportée à la passion du Christ. De même qu'on a rapproché ce cortège de rites de l'Église orientale que les croisés auraient découvert et que Chrétien de Troyes aurait connu comme cela. Peut-être, mais ce n'est pas seulement cela.
Le souffle de Dieu. Seul le pénitent pourra le passer. Le pénitent pourra le passer.
Seul le pénitent pourra le passer. Seul le pénitent pourra le passer.
Le pénitent pourra le passer. Le pénitent, le pénitent. Le pénitent le passe.
Le pénitent le passe. Le pénitent.
Le pénitent se montre humble devant Dieu.
Le pénitent, le pénitent.
Le pénitent le passe. Le pénitent est humble. Il s'agenouille devant Dieu. La seconde épreuve est le mot de Dieu. Uniquement dans les pas de Dieu devra avancer.
Le nom de Dieu.
Le nom de Dieu.
En latin, Jéhovah commence par un I.
J.
Oh non. Oh.
En latin, Jéhovah commence par un I. Uniquement dans le saut depuis la tête du lion pourra-t-il prouver sa valeur. Impossible. Personne ne peut sauter ça. C'est le saut de la foi.
Oh, tu dois y croire, mon fils. Tu dois y croire.
Alors, parmi les nombreuses réécritures de la quête du Graal, Michel Zinc, il y a celle d'Indiana Jones, hein, donc le film d'Harrison Ford, le film de Spielberg interprété par Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones, et ici Sean Connery dans le rôle du père. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu un contresens dans le film sur le Graal, puisqu'en réalité, le Graal, le vrai Graal à la fin du film, est celui qui est le moins clinquant possible. Or, dans le roman de Chrétien de Troyes, au contraire, on insiste sur les diamants et sur le fait qu'ils brillent. Mais cela dit, il y a une chose qui est intéressante, alors je ne sais pas ce que vous en direz, c'est que là, l'accent est mis, on insiste beaucoup sur la dimension religieuse, le sceau de la foi, il faut y croire, dit-il, pour pouvoir parvenir au vrai Graal, pour pouvoir mener à bien la quête. C'est ce qui se passe aussi avec Perceval, et vous insistez sur la dimension charitable et chrétienne depuis le début.
Oui, le film d'Indiana Jones est un très beau film, et pour ma profession, il est extrêmement flatteur qu'un des héros à côté d'Indiana Jones, son père, soit un professeur de littérature du Moyen Âge sous les traits avantageux de Sean Connery. Toute la profession était ravie, naturellement. Et alors, que le Graal soit le plus modeste des vases ne correspond pas à la description de Chrétien de Troyes, mais comme vous le dites très bien, il y a là-dedans une vérité quant à l'esprit de ces romans, tout de même, parce que cette sorte de constant renversement des valeurs qui est le fondement du christianisme, ce jeu du qui pergagne, les premiers seront les derniers, les pauvres passeront avant les riches, il faut se dépouiller de tout pour tout avoir, il faut tout donner pour tout recevoir, ce qui est la leçon du conte du Graal, eh bien, c'est quelque chose à quoi le Moyen-Âge est extrêmement attentif et très sérieusement attentif, dans une contradiction permanente, puisque c'est l'époque de l'Église triomphante, allons dire, l'Église terrible, l'Inquisition, les croix. C'est vrai, mais en même temps, ils sont toujours déchirés parce qu'ils n'oublient jamais tout de même. Ils lisent tout de même assez attentivement les évangiles pour savoir quand même ce qu'on attendrait d'eux. De sorte que cette sorte d'oscillation est très médiévale. Et je trouve que le film a raison de présenter un Graal de bois. Là où il a tort, mais comment l'éviter ? Enfin, où il a tort, on le regarde avec passion, c'est que le Graal se trouve en faisant des trous grâce à l'archéologie. Hein, parce que si on fait un trou, on trouve le Graal, qu'il soit riche, pauvre, en bois ou en n'importe quoi, et ensuite on a le Graal, et puis après, on se retrouve tout bête. Qu'est-ce qu'on en fait du Graal ? On le met dans un musée, on le regarde. Hein, le Graal, c'est une conversion. C'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objet, et c'est même pour cela qu'il est tellement difficile de terminer la légende du Graal. Il y a l'un des romans a inventé une fin magnifique, un roman en prose très sauvage, extrêmement étrange, très beau, c'est le père, enfin, qu'on appelle Perceval, ou le haut livre du Graal. Et à la fin, donc Perceval devient le roi du Graal, etc. Puis ce château du Graal devient comme le château de la Belle au bois dormant. Une forêt immense, impénétrable, pousse autour. Et un jour, deux jeunes gens ont le courage d'entrer dans la forêt et d'aller jusqu'au château du Graal. Et ils en reviennent. Et quand ils reviennent, ils ont l'air de vieillards. Ils ne veulent pas dire ce qu'ils ont vu. Chacun se fait ermite. Et voilà. Il s'enferme dans la prière et le silence. Eh bien, c'est d'une certaine façon la seule fin, la seule façon de terminer l'histoire du Graal. Si ça se termine, encore une fois, vraiment bien, il devient roi du Graal, etc., ça ne dit rien. Et un film comme Indiana Jones ne peut pas avoir une fin satisfaisante. Ensuite, on trouve le Graal, et qu'est-ce que ça fait ? Je la mets à l'ordre du jour pour la prochaine séance de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Il y aura une communication faite par l'archéologue qui a trouvé le Graal. C'est pitoyable.
Et en même temps, le fait que le Graal soit une fin en soi dans le film fait comprendre, alors peut-être à contrario, l'importance du Graal dans le roman de Chrétien III et puis aussi dans d'autres textes qui ont été réécrits par la suite, c'est le fait que le Graal symbolise justement cette impossibilité d'une connaissance absolue de toute chose. On parle de la charité, de la dimension religieuse, mais c'est aussi d'un point de vue peut-être juste de connaissance, voire philosophique, c'est l'impossibilité de faire système, l'impossibilité de déceler le mystère des choses.
Exactement. Exactement. C'est la... la richesse de ce qui ne peut jamais se terminer. Et on l'emploie aujourd'hui, n'importe quoi. Si les syndicats et le patronat ont du mal à se mettre d'accord, on dit c'est le Graal. Non, mais ça... Toute chose impossible, c'est le Graal aujourd'hui. Well, that's the round table. We dance where we're able. We do routines to call a scene to footwork impeccable. We dine well here in Camelot. We eat ham and jam and spam a lot. Knights of the Round Table, our shows are for the table. So many times we give and rhyme, that are quite unsingable. We're rock and mad in Camelot, we sing from the diaphragm
to push the pram along.
Merci beaucoup, Michel Zinc. C'est avec les
Merci.
Les chevaliers de la table ronde des Monty Python que nous nous quittons. Je renvoie les auditeurs à votre introduction à la littérature française du Moyen-Âge qu'on trouve au livre de poche et également au livre de poche dans la collection Pochothèque. Vous avez dirigé l'édition des œuvres complètes de Chrétien de Troyes. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François.
Bonjour Adèle. L'histoire politique oppose souvent la démocratie au totalitarisme, mais elle s'intéresse moins à une forme de gouvernement qui échappe à ces deux catégories, le modèle autoritaire. Guy Hermet en trace l'histoire et les contours actuels dans « Démocratie et autoritarisme » paru aux éditions du CERF. Guy Hermet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques, professeur émérite à Sciences Po. Vous évoquez une sorte de zone grise, en quelque sorte, entre la démocratie et le totalitarisme, un mode de gouvernement un peu indistinct, mais quand même que vous cherchez à repérer, c'est ce gouvernement autoritaire.
Oui, tout à fait. Je dirais même qu'au fond, ça a été, en général, le mode de gouvernement le plus courant, mais le plus mal défini, tellement il recouvrait de formes de gouvernement, en réalité. Mais bon, ce qui m'a intéressé, c'est évidemment de le situer, de le différencier du reste. Et de la démocratie, c'était pas si facile que ça, mais enfin, ça paraissait plus évident. De le différencier, évidemment, du totalitarisme, qui est l'abomination de la désolation, alors que la plupart des pays européens, notamment, enfin, sauf certains, mais la plupart, ont connu des gouvernements autoritaires qui n'étaient pas l'abomination de la désolation et qui ont beaucoup contribué à la formation de ce qu'est la politique dans ces pays aujourd'hui. Oui. Tout n'est pas venu de la démocratie. D'ailleurs, la démocratie est venue très tard.
Alors, vous identifiez son apparition à ce gouvernement autoritaire au XIXe siècle avec le Second Empire et Napoléon III ou le Reich de Bismarck.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Les deux, d'ailleurs, étant des régimes très mal vus et très méconnus de ce fait, Napoléon III, enfin le petit, alors que quelques-uns quand même ont considéré que c'était le grand. La France moderne remonte au Second Empire, c'est-à-dire à Napoléon III, et Bismarck, c'était le Reich allemand, mais ce Reich, on le confond avec un Reich plus récent qu'on a trop connu. C'était pas du tout pareil, et je dirais que la modernité politique, économique aussi, de l'Allemagne comme de la France, procède d'une forme d'autoritarisme intermédiaire un peu mou.
Oui, on pourrait s'attendre à ce que vous condamniez cette forme de régime, parce qu'il est associé au populisme, au clientélisme peut-être. Voilà. Cette notion d'autoritarisme, évidemment, est péjoratif, mais vous montrez effectivement que ces gouvernements ont apporté beaucoup à la prospérité des pays, à leur modernisation. Alors, est-ce à dire qu'il faut peut-être reconnaître des mérites au gouvernement autoritaire ?
Je pense, pas s'efforcer de le reconnaître des mérites, observer et reconnaître ce qui est. Et aussi évacuer, si vous voulez, l'impression que ce sont des régimes terriblement répressifs. En fait, la Troisième République naissante, qui n'avait pas encore de nom, en 1871, en réprimant la Commune de Paris, a tué beaucoup plus de gens que Napoléon III ou Bismarck ne l'ont jamais fait. Donc, et pourtant, on ne jette pas l'opprobre sur la Troisième République. Donc, ce sont des régimes curieux. Bismarck, par exemple, fréquentait les dirigeants socialistes, connaissait le dirigeant socialiste allemand, Lassalle, par exemple. Il s'est beaucoup inspiré, en fait, d'eux. Et Napoléon III était un personnage curieux. Il était entouré de Saint-Simoniens, donc de gens de gauche. Et c'est lui qui a financé le voyage à Londres des premiers représentants ouvriers qui ont créé l'Internationale ouvrière à Londres. Et bien, c'est le gouvernement impérial qui a payé les frais et qui a ensuite autorisé un bureau de l'Internationale ouvrière à Paris, alors que c'était interdit partout ailleurs en Europe, y compris en Angleterre.
Dans l'histoire politique, on distingue souvent un modèle libéral anglais et un autre modèle qui serait plutôt français, fondé sur la souveraineté populaire. Le gouvernement autoritaire, il s'inscrit où dans cette opposition ? Cette opposition que vous nuancez en montrant qu'elle n'est pas forcément toujours valable dans les faits.
Mais je dirais que le modèle français est vaguement du côté de Rousseau en parole. il y a un modèle conventionnel, le régime d'assemblée, tout cela.
Mais ce sont des
c'est
mots.
Une partie. Et ce sont largement des mots, pas toujours, mais largement des mots, quelquefois aussi d'ailleurs des horreurs. Et puis d'autre part, ça c'est le modèle qu'on pourrait appeler conventionnel. Mais il y a le modèle directorial, l'Empire. Le modèle français, c'est aussi le Premier Empire, le Second Empire et la Ve République.
Ouais. Alors le présidentialisme de la Ve République vous paraît dans cette lignée d'un gouvernement autoritaire ?
Bon, dire autoritaire, ça serait très méchant oui. et très mal reçu. Mais c'est un gouvernement fort. C'est l'idée d'un gouvernement fort. Et si vous voulez, ce qu'il faut nuancer peut-être, c'est évidemment s'abstenir d'appeler la Ve République gouvernement autoritaire, mais aussi s'abstenir de voir les régimes du tel que le Second Empire comme des dictatures pures et simples.
Oui.
Ce
oui,
sont des régimes libéraux à beaucoup oui. d'égards.
Malgré tout, quand on entend gouvernement autoritaire, on penserait plutôt, je ne sais pas, par exemple, à l'Amérique latine, justement, où il y a cet autoritarisme militaire avec ce populisme aussi. Enfin,
oui.
bon, on peut penser, je sais pas, au Venezuela. Ou...
Oui, je ne peux pas, évidemment, tout aborder, ni dans mon livre, ni ici.
Oui.
Mais en Amérique latine, précisément aussi, il y a eu des épisodes autoritaires qui ont été des épisodes de formation de ce que sont devenus ces pays. Et si vous voulez, par exemple, le Brésil. Le Brésil, on voit le Brésil de Lula, surtout.
Oui.
Mais ce Brésil de Lula, eh bien, beaucoup du travail de défrichage, je dirais, contre lequel il luttait, mais a été fait par un régime militaire qui était un régime...
Par la dictature militaire.
Par la dictature militaire. La croissance économique du Brésil, le renversement de cette idée de Gaulle que le Brésil aurait toujours son avenir devant lui, c'est les militaires qui ont fait que le oui. Brésil a rattrapé son avenir et qui a rendu possible oui. ensuite.
Alors votre modèle finalement idéal, ce ne serait pas la Chine aujourd'hui ?
C'est possible, mais je crois que le modèle chinois... n'obéit pas à une espèce de processus qu'on pourrait imaginer évolutif. Je ne pense pas que le modèle chinois doive déboucher plus tard sur un gouvernement représentatif plus ou moins démocratique. Je pense qu'il va rester plus ou moins comme ça et que la démocratie n'est pas le premier désir des Chinois, de certains, c'est sûr, mais qui sont une minorité. Donc ça ferait une grosse différence justement avec le rôle des régimes autoritaires en Europe ou en Amérique latine.
En proposant ce modèle du gouvernement autoritaire, vous critiquez d'une certaine manière les modèles philosophiques qui ont été établis dans la science politique depuis Aristote. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a des formes émergentes de gouvernement qui s'inventent ? On a parlé, par exemple, du berlusconisme, en disant qu'il y avait ici, par exemple, de considérer l'État comme une entreprise, des modèles qui peuvent aussi passer par l'autoritarisme, qui se forgent. Est-ce que vous, puisque vous êtes un analyste des formes politiques, vous diriez qu'il y a aujourd'hui invention ou bien continuité du modèle, par exemple, autoritaire ?
Non, je pense qu'il y a rupture. Je ne sais pas s'il y a spécialement rupture du modèle autoritaire, je crois qu'il y a rupture d'un peu tout. Le gouvernement du futur, je pense que ça a failli s'orienter vers ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire quelque chose très lié à la globalisation. Mais maintenant, en même temps, il y a un retour très curieux du populisme, mais qui est le retour non pas type Berlusconi, non pas type Le Pen, mais type Beppe Grillo. Un retour au Moyen-Âge, presque. Le peuple se soulève. Et vous savez que la devise de Beppe Grillo, c'est qu'il foute le camp. Et on va vers quelque chose comme ça qui est très indéfini.
Merci, Guilherme. Je rappelle le titre de votre livre, « Démocratie et autoritarisme » paru au CERF. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcaster sur le site de franceculture.fr.
Merci François, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de ce retour vers le Moyen-Âge. Demain, ce sera le philosophe Didier Ottaviani qui viendra nous conduire hors de l'enfer et vers le paradis de la comédie divine de Dante, dans tout ce que le Moyen-Âge toscan a fait de plus lumineux. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.